Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn.
Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 3 du podcast. J'ai enregistré cet épisode avec Anouk cet été, avant même le vote de la loi bioéthique. Et en réécoutant nos échanges, je me rends compte que les questions sont à la fois pile dans les sujets du moment et complètement obsolètes, vu le vrai bond en avant que nous avons fait avec le vote de la nouvelle loi bioéthique, les RCA et les RCP, la possibilité d'autoconserver nos ovocytes et nos spermatozoïdes, et la question de la levée de l'anonymat qui exacerbe toutes les sensibilités. Anouk a vécu dans nos familles, c'est une de nos enfants. Et vous savez comme j'ai à cœur de leur donner la parole, de donner la parole aux premiers témoins de nos vies. Je le répète souvent, ce sont les meilleurs ambassadeurs de nos parentalités. Anouk a 18 ans, elle a vécu avec deux mamans séparées. Elle nous raconte ce rôle de guide qu'ont eu ses mères, chacune dans leur foyer. Elle nous relate ses ressentis et son enfance qu'elle qualifie d'heureuse. J'ai été hyper rassurée par son discours. J'ai ressenti une enfant bien dans ses baskets, malgré toutes les complexités rencontrées dans sa famille. Merci Anouk pour ta confiance, d'avoir bien voulu te livrer. C'est un acte politique, comme tu le dis, et pour nous c'est précieux. Je vous laisse découvrir son témoignage. Bonjour Anouk.
Bonjour.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Je me suis vraiment, entre guillemets, servie de ton lien avec Kolia pour pouvoir t'entendre et entendre ton histoire à toi. Je vais commencer par te laisser te présenter et ensuite on va développer un petit peu. Je te laisse te présenter.
Ok, ça marche. Je m'appelle Anouk, donc j'ai 18 ans en ce moment et je suis en études de cinéma à Londres et je suis donc la sœur de Kolia que tu as eue, comme tu viens de le dire, dans un épisode précédent. Voilà.
Voilà, exactement. Tu fais partie des enfants qui ont témoigné dans le livre de Kolia qui s'appelle donc Gosse d'Homo. Et tu es donc sa petite sœur. Donc elle nous a parlé de toi dans son épisode. Donc vous avez 3 ans d'écart. Mais ce qui m'intéresse, parce qu'on le sait toujours, c'est d'avoir ta version de l'histoire, comment toi tu as vécu ton enfance et surtout la différence qu'il va y avoir entre vous avec ces fameux 3 ans d'écart et donc le divorce de tes mamans qui est arrivé 3 ans plus tôt pour toi par rapport à ton âge, etc.
Ok.
Alors déjà, est-ce que tu peux me raconter, toi, comment ta famille en fait, comment tu as grandi dans cette famille ?
Ok, donc j'ai deux mamans, enfin deux mères du coup, dont une qui est donc biologique et l'autre donc qui est plus donc sociale. on a été fait donc avec une PMA, mais un peu spéciale parce que donc notre géniteur a été cherché aux États-Unis, puis conçu donc en Hollande, si je me souviens bien. Voilà.
D'accord. Et effectivement, ce que j'allais te demander, c'est qu'est-ce que tu connais, toi, de votre histoire ? Est-ce que tes mamans t'en ont parlé, ou tes mères t'en ont parlé de ton côté ? Est-ce qu'il y a eu des moments, des bulles, où tu n'étais peut-être pas avec Colia et où vous avez eu des discussions peut-être un peu plus prolongées ou poussées sur votre conception ?
Oui, en fait, je me souviens plus de moments quand j'étais plus jeune, en fait, où je parlais beaucoup avec donc ma mère sociale de ça, parce que donc c'est elle en fait qui avait fait, qui a été beaucoup plus active en fait dans toute cette histoire, parce que donc à la base c'était elle qui voulait nous porter en fait. Donc c'est elle en fait qui a tout organisé en fait. Donc oui, je me souviens plus de moments comme ça où. Je sais pas, elle racontait des histoires, enfin pas des histoires, mais genre des trucs de qu'elle savait en fait du dossier du donneur. Et moi, ça m'amusait beaucoup parce que je sais pas, elle disait que je sais pas le donneur, son grand-père était gouverneur du Taïwan ou je ne sais quoi. Et du coup, je m'imaginais un peu genre une princesse. Enfin, c'était un peu des trucs d'enfant sympas. Mais en même temps, après, je me souviens aussi d'une époque où je rejetais complètement en fait cette idée de vouloir savoir quoi que ce soit, parce que bah, je m'en foutais, en fait, parce que ça n'avait rien à voir avec ma famille. Mais c'est vrai que on sait pas grand-chose, en fait, parce que il n'y a jamais eu un moment où on nous a assis à une table en nous disant voilà comment vous avez été fait, voilà comment c'est. Ça a toujours, enfin, j'ai l'impression que c'est toujours du... C'est en fait des choses que je sais depuis toujours, un peu.
Mm-hmm.
Ouais.
C'est très intéressant ce que tu dis, et d'ailleurs très rassurant ce que tu évoques par rapport au donneur, en me disant que vous vous en foutiez parce que c'était pas, ça avait aucun rapport avec votre famille. C'est, je vais pas te mentir, hein, c'est forcément une crainte de notre part quand on n'est pas encore passé par, quand nos enfants sont pas encore passés par là. On nous dit souvent à l'adolescence, enfin en tout cas c'est pas une crainte de notre part, mais c'est souvent une crainte de la société qui donc la déverse sur nous, de nous dire que nos enfants ils voudront connaître leur géniteur. Comment toi tu l'as dit, tu t'en foutais. Est-ce que actuellement, enfin comment tu te positionnes par rapport à ça?
Maintenant je m'en fous encore, enfin entre guillemets, hein, bien sûr, mais dans le sens où, enfin ça a tellement été intériorisé pour moi que j'ai deux parents, enfin que ça soit deux femmes, deux hommes, on s'en fout. Enfin pour moi le genre n'a jamais été très important en fait. C'est pas vraiment, enfin on n'a pas besoin d'avoir un père ou une mère ou quoi que ce soit, je sais pas, c'est quelque chose sur lequel je suis pas d'accord d'ailleurs avec ma mère, on en parle souvent du fait d'avoir un parent ou deux parents, est-ce que c'est ça qui est important ou pas, mais oui, aujourd'hui en fait ça m'est égal. Après maintenant je comprends mieux parce que je sais enfin l'enjeu politique qu'il y a derrière en fait aussi, que je n'avais pas avant, mais que j'avais déjà on va dire intériorisé, on va dire, mais après sur cette crainte de devenir adulte, enfin de d'avoir des enfants genre sans père par exemple, ou je sais pas, c'est un peu les arguments de la manif pour tous, ce genre de truc.
Complètement.
ouais, c'est vrai que enfin j'imagine qu'il y a des, après je sais pas, justement je suis une femme, donc moi j'ai été toujours avec donc j'avais deux mères, donc j'imagine que c'est totalement différent donc de ce que Colia a vécu quand elle était enfant, mais j'ai toujours eu, du coup, une espèce de... C'est un peu bizarre à dire, mais... quand j'allais chez mes amis, par exemple, et que, du coup, il y avait des pères, j'ai toujours eu, pas peur, mais un peu, genre, j'ai toujours été un peu bizarre par rapport à eux, en fait. Je comprenais pas trop ce que c'était, en fait, et du coup, j'avais toujours un peu... Enfin, je me cachais un peu, genre, je sortais pas de la chambre quand j'allais jouer chez des amis,
ouais, par exemple. Genre,
mais maintenant, ça va beaucoup mieux, parce que ouais, c'est ça, en fait, je comprenais pas pourquoi il y avait, en fait, des hommes dans une maison, en fait, j'imagine. Mais, voilà.
Ouais, je comprends complètement. Et le fait de savoir que tu peux avoir accès à tes origines, puisque c'était quand même la démarche faite par tes mères, est-ce que c'est quelque chose qui t'intrigue, t'intéresse, ou tu t'en fiches complètement?
Je crois pouvoir avoir accès complètement à mes origines, dans le sens où le géniteur ne veut pas savoir quoi que ce soit, non?
D'accord. Donc vous savez en fait un petit peu sur lui, mais lui ne souhaite pas vous laisser l'accès en fait.
Oui, c'est ça, en fait, c'est que, enfin, il doit y en avoir des milliers comme nous, dans le sens où, enfin, lui, enfin, il vend son sperme ou son... J'utilise pas les bons mots, mais genre, ses gènes, en vrai. Et du coup, beaucoup de personnes l'achètent, donc s'il devait être en contact avec tout le monde, j'imagine que ça serait un peu compliqué. Mais si je devais pouvoir, on va dire, non, ça m'intéresserait pas énormément, peut-être pour, d'un point de vue génétique, pour savoir si je vais avoir des maladies ou quoi que ce soit, mais sinon, absolument pas, non.
D'accord, ok. Ok, ok. C'est vraiment... Enfin, tu vois, je pense qu'on se fait un peu des nœuds à la tête à des moments, surtout particulièrement quand on commence un parcours de PMA où on a plein de questions à répondre, tu vois, on doit se dire dans quelle position on va se mettre, qu'est-ce qu'on choisit déjà comme méthode, est-ce qu'on choisit que le donneur soit anonyme, semi-anonyme, connu, enfin, tu vois, on doit faire plein de choix dans des périodes très courtes sans avoir vraiment la visibilité sur ce que ça va engager dans l'avenir. Et du coup, c'est vraiment passionnant d'avoir la réponse de... Au moins, bah en tout cas, je ne dis pas que c'est une réponse universelle que tu viens de m'apporter, mais en tout cas, c'est quelque chose de rassurant parce que c'est le témoignage d'un enfant qui est passé par là, quoi.
Ouais, ouais, c'est sûr.
Et alors du coup, donc je sais que, enfin tu viens de me le dire et on le sait par rapport à l'épisode qui avait été enregistré avec Colia, que donc tes mamans se sont séparées et que à l'origine de ce parcours, c'est ta mère sociale qui est donc à l'origine de ce parcours. Est-ce que toi, tu l'as ressenti dans ton enfance? Comment tu l'as vécu?
Alors la séparation ou le fait que ça...
Alors oui, c'est vrai. Pardon, ma question est très ouverte pour le coup. Excuse-moi. On va déjà commencer par savoir comment tu as vécu effectivement la séparation et donc du coup va en découler l'après et du coup forcément le comportement de ta mère sociale qui était, comme je l'ai qualifié, une maman sans droit.
Oui, bah en fait donc moi quand mes parents se sont séparés, du coup j'avais un an un peu approximativement, il me semble. Donc je me souviens de pas grand chose en fait, je me souviens que de ce qui est arrivé après, donc tout ce qui était assez violent en fait. Enfin, je crois, si je me souviens, que Colia en a parlé aussi. C'était beaucoup de conflits en fait, beaucoup de... Je ne saurais même pas comment le dire en fait. Mais en même temps, comme on faisait une garde alternée en fait, de une semaine, toujours en fait, ça a pratiquement toujours été comme ça. On avait plutôt genre deux familles en fait, enfin deux familles. Une semaine, on était famille avec donc une mère, et l'autre semaine, on était famille avec la deuxième mère, quoi. Et en fait, c'était assez rare qu'on soit tous ensemble. Surtout qu'après, quand on est devenu plus grand, Colia, après, voulait plus du tout faire des trucs tous ensemble. Alors que moi, j'essayais plutôt enfin, j'aimais bien faire des trucs tous ensemble, même si généralement ça finissait un peu mal. J'essayais toujours, en fait. Je sais pas si c'est parce que j'étais la plus petite et que du coup j'essayais toujours de pas mettre mes parents ensemble, mais genre d'essayer d'avoir une sorte de famille classique. Mais voilà. Mais du coup, c'était assez rare parce que Colia refusait. Mais oui, je me souviens de tout ce qui était. C'était surtout pendant que j'étais donc adolescente, je dirais, au collège, que c'était assez compliqué parce que justement il y avait toute cette bataille à propos de l'adoption, parce que justement il y avait cette idée de peut-être se marier, mais du coup faussement vu qu'elles étaient séparées, du coup le problème de l'autorité parentale, quoi, enfin juste parce que notre système est super mal fait, est super... Enfin bref, on le sait, quoi.
Oui, mais
mais voilà, non, mais je pense que du coup, en fait, c'est beaucoup ça, en fait. Enfin, le fait qu'elle ait pas de droit qui était à la source de beaucoup de ses souffrances, en fait. Parce que du coup, il y avait pas mal de moments, en fait, où elle... Enfin, de jalousie, où elle pensait, par exemple, qu'on préférait l'une à l'autre, en fait. Et ça, je pense que ça vient de là.
Ouais. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, hein. La jalousie globalement, mais surtout, t'es toujours inquiet quand t'es parent de savoir comment ton enfant te perçoit et de faire au mieux pour lui. Et donc, t'as à cœur. Enfin, tu vois, c'est quelque chose vraiment qui te prend au trip. Donc, c'est très compréhensible.
C'est vrai
que ça, c'est difficile, hein, de ne pas avoir de reconnaissance et de droit. Tu vois, nous, on le vit actuellement sur des périodes qui sont relativement courtes quand ça se passe bien dans nos familles, puisqu'on peut accéder à l'adoption maintenant assez rapidement, on va dire assez rapidement, même si c'est encore trop long. On a au moins cette visibilité de pouvoir avoir cet accès-là. Évidemment, quand ça ne se passe pas bien, là, c'est plus compliqué. Et donc, il y a encore des parents sans droit aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Et de ce que je retiens de ton témoignage, comme de celui de Colia, c'est que vraiment, votre maman sociale, elle a souffert. Elle a beaucoup souffert de cette situation. Et pourtant, vous avez quand même réussi à mettre en place une garde alternée qui s'est a priori relativement bien passée, en tout cas dans l'alternance. Mais t'es jamais serein, quoi.
Ouais, non, mais totalement. Hein. Ouais.
Je sais pas si c'est quelque chose que vous ressentiez, vous, au quotidien, ce manque de sérénité. Je pense que... Enfin, je vais te laisser y répondre avant de répondre.
Bah, oui, dans le sens où je pense que c'était... mal exprimé, non, parce que c'est pas à moi de dire ça, mais comment moi je l'ai perçu, c'est que c'était exprimé d'une façon contre nous, en fait, alors que ça aurait dû être... Enfin, j'aurais préféré que ça soit contre le système, en fait, plus que... Oui. Parce que moi, j'avais... Enfin, on avait... Enfin, ok, je veux dire moi, parce que... Voilà. Oui. moi, j'avais l'impression que c'était plus, genre, nous blâmer... parce que, je pouvais plus faire grand chose en fait, parce que j'avais l'impression que dès que je faisais une chose, par exemple avec ma mère biologique, tout de suite ça voulait dire que je la préférais en fait, et du coup c'était assez dur de trouver genre l'équilibre en fait de l'un et l'autre quoi, enfin de comment vivre en fait. Du coup c'est pour ça que, enfin, j'ai passé de moins en moins de temps en fait avec ma famille quand je suis devenue plus âgée, et j'ai développé un peu ce truc de comme quoi la famille c'est quelque chose de toxique et que c'est quelque chose qu'on choisit pas quoi, alors que c'est débile parce que je les aime beaucoup, c'est pas
débile, c'est ton vécu en fait, ton ressenti, et c'est ta façon aussi de te protéger de ce que tu as vécu.
Ouais.
Et du coup justement, est-ce que le fait, donc déjà, est-ce que toi tu sais ce qui a été mis en place par rapport à l'adoption finalement, puisque bon, donc le mariage n'a pas été mis en place, enfin il n'y a pas eu de mariage, est-ce que tu sais, et est-ce qu'elles t'ont parlé de des démarches qu'elles faisaient, et d'une, et de deux, est-ce que ça a solutionné un peu tout ça? Est-ce que tu as senti que ça apaisait un peu toutes ces tensions?
Oui, alors il me semble que Katharina a commencé le processus d'adoption assez tôt, en fait, parce qu'il y a énormément de choses à trouver, enfin de témoignages, de photos, etc. Et on a eu pas mal de problèmes, parce que justement, on n'est pas une famille qui prend des photos, donc on avait pratiquement zéro photo, et surtout que s'il y avait des photos, bah, c'était elle qui les prenait, du coup, elle n'était pas dessus. Et puis aussi parce que donc elle est allemande, donc c'était compliqué par rapport à la nationalité et du coup papier qu'il fallait traduire, etc., les actes de naissance, enfin c'était un délire. Donc ça a mis beaucoup de temps, et du coup ça a été donc fait, je crois, en 2019. Mais même entre le moment où on a été, parce que moi j'ai dû aller au tribunal du coup pour parler avec une femme, il me semble que c'était une femme, de ça. Et entre le jugement, il y a eu au moins un an, il me semble. Donc c'était très, très long. Et puis même, c'était pas très... Enfin, rien n'était clair. Enfin, c'était vraiment une espèce de catastrophe de l'administration française. En plus, du coup, j'ai été obligée de prendre le nom de la famille de Katharina, alors que je l'avais déjà, en fait. Du coup, je m'appelle Anouk Witkowska Ifler Witkowski, ce qui est ridicule, un peu. Il n'y a aucune souplesse, en fait, il n'y a aucune adaptation par rapport au cas par cas, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est vrai que, du coup, ça a apaisé, parce que, bon, je ne sais pas, c'est aussi peut-être parce que je suis devenue plus grande et que je suis partie étudier un an après, donc, la distance, c'est toujours autre chose, quoi, mais oui, en effet, je pense que ça a énormément apaisé.
Oui, parce que du coup, donc, tu sais peut-être pas sur quel type d'adoption vous avez eu droit, mais il me semble que Colia avait évoqué, et d'ailleurs, j'avais pas creusé à ce moment-là, mais avait évoqué le fait que ta maman biologique avait dû renoncer à ses droits parentaux, si je ne me trompe pas, le temps de la procédure.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Alors moi je suis pas une experte, donc je saurais pas expliquer super bien, mais je crois que c'est une adoption simple, parce que du coup il y a accès que à l'adoption plénière si elles sont mariées, il me semble.
Oui, c'est possible.
Ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était pas possible, ou je sais pas. Mais oui, en effet, du coup moi j'avais 17 ans, je crois, en 2019, ouais. Du coup, j'avais encore un an donc d'être enfant entre guillemets. Donc oui, pendant un an, donc ma mère biologique a dû abandonner je sais pas si c'est droits parentaux, en tout cas c'est autorité parentale, je sais pas si c'est la même chose. Mais
en tout cas, c'est ce que moi j'entendais par là.
Ok, oui, bah en gros c'est ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu que ça a mis longtemps aussi. C'est parce que elle hésitait énormément à faire ça, ce qui est compréhensible étant donné que, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais du coup, elle a fait ça finalement. À la fin, elle l'a fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir l'adoption. Mais de toute manière, ça a changé pas grand-chose vu que j'avais déjà 17 ans, quoi.
Aujourd'hui, vous êtes toutes les deux. Enfin, on va parler de toi en l'occurrence. Toi, tu as tes deux mamans sur ton acte de naissance. On est d'accord ?
Je crois pas qu'ils aient changé mon acte de naissance.
T'as pas la mention sur le côté de l'adoption ?
Peut-être. En tout cas, le seul papier qu'on a eu. Enfin, c'est pour ça que je disais que c'était aussi pas très clair, c'est qu'on a juste reçu un. Enfin, genre un papier avec le dossier, mais rien de la part de. Enfin, rien du tout de la part, je sais pas, par rapport à l'acte de naissance ou de ce qu'on devait faire plus tard, quoi. Bon, après, c'est peut-être nous qui sommes. Enfin, qui aurions dû. Enfin, qui doivent creuser.
Mais c'est pas clair.
C'était même pas. On n'était même pas sûr que ce soit positif, en fait. Parce que. Enfin, le langage est tellement alambiqué qu'on n'était même pas. Enfin, c'était compliqué. Mais c'est possible, du coup. Enfin, tu connais mieux que moi, de toute manière. Donc,
Oui, alors, sur des points de détail de procédure comme ça, sachant que chaque tribunal a ses propres. Ses propres documents, ses propres dossiers, enfin tout, honnêtement, non. Je patauge autant que vous toutes, je pense, et que nous toutes. c'est vraiment pas clair. Ce à quoi on a droit normalement, et puis il y a ce qui est fait dans les tribunaux. C'est pas forcément hyper détaillé. Et puis, ça va encore changer avec la nouvelle loi bioéthique qui vient d'être votée et les futurs projets qui vont en découler. Donc, on va attendre un peu de voir ce qu'il en est.
Okay.
Et toi, comment tu as vécu ton enfance? Comment tu as vécu le fait d'avoir deux mamans?
Oula, ok. C'est large.
Oui. Ah oui, c'est hyper large. Alors, je vais peut-être, si tu veux, recentrer. Est-ce que tu veux parler déjà d'une part au sein de ta famille et ensuite on pourra parler peut-être auprès de tes proches, de ton entourage sociétal, on va dire. Et social, ce serait mieux, c'est plus français d'ailleurs. Ton entourage social.
Ok. Alors, dans ma famille, je pense que comment j'ai vécu mon enfance, en fait, n'a pas vraiment de rapport avec le fait d'avoir deux mères, à part, du coup, justement, ce côté dont j'ai déjà parlé, en fait, de ce côté des droits. Pour moi, c'est, enfin, quand je pense à mon enfance, très bon souvenir, mis à part les petits problèmes, familiaux, j'ai vraiment pas à me plaindre, très privilégiée, j'ai été dans des très bonnes écoles, j'ai eu des très bons amis, etc. Et justement, je pense que c'est aussi ça, enfin du coup ça fait un peu le pont avec l'école et tout ça et le truc social, c'est que j'ai toujours dit à tout le monde en fait que j'avais deux mamans. En fait, pour moi c'était vraiment pas
un sujet.
Ouais, c'est vraiment pas quelque chose de spécial, on s'en fout, quoi. Enfin, parce que généralement, comme je suis racisée, on me demande souvent, en fait, ah ouais, tu viens d'où, machin. Et du coup, dès qu'on me pose une question là-dessus, je suis obligée de déballer tout le dossier parce que sinon je mens.
Donc, complètement.
Voilà, donc généralement ils disent « Ah, et donc ton père est chinois », ou quelque chose comme ça. Donc je dis « Bah non, alors déjà j'ai deux mères », et du coup après ça part dans un truc. Et je trouve ça assez rigolo en fait, parce que les gens ont plein de réponses assez rigolotes sur le coup, quoi. Enfin, j'ai jamais eu de réponses mal intentionnées ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai été aussi
très à l'aise avec le sujet.
Ouais.
Ouais, c'est ça. C'est l'impression que j'ai, en fait. C'est que plus t'es à l'aise avec ça, et moins, en fait, on vient te chercher dessus, finalement.
Oui, probablement. Oui.
D'accord. Et alors, du coup, donc, depuis toute petite, toi, ça ne t'a jamais posé de problème. Ça a été fluide.
Oui, oui, on peut dire ça, oui.
Ah, c'est vraiment chouette à entendre. Hein. Ça aussi, c'est très rassurant.
Ouais, mais c'est bizarre parce que, enfin bizarre, non, j'ai rien à dire là-dessus, mais enfin je sais pas, pour moi c'est pas quelque chose de... Après c'est peut-être aussi parce que justement je suis plus jeune, parce que je sais que Collier l'a vécu totalement différemment. C'est vrai qu'il y a certains moments par exemple où, sur des amis de mes parents par exemple, qui ne savaient pas du coup qu'elles étaient lesbiennes, en fait du coup j'ai fait la gaffe plus ou moins, on va dire, parce que comme moi je refuse de me dire, parce que c'est ridicule de cacher ça, enfin, c'est... Et que surtout que c'est, enfin, je dirais jamais à, mais enfin, je ferai jamais le coming out de quelqu'un d'autre, enfin de mes parents, parce que c'est pas mes affaires, mais par contre, on peut pas me demander de cacher que j'ai deux mamans. Donc, ça m'est arrivé de malheureusement, en fait, de faire le coming out de mes mères parce que j'ai raconté mon histoire, en fait. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Mais non, moi, j'ai toujours été plutôt ouverte là-dessus.
D'accord. Et aujourd'hui, comment tu vas? Comment tu te sens? Comment tu vis ta vie? Comment tu grandis, en fait? C'est large encore comme question, je suis désolée.
Oui. Je sais pas trop, parce que avec le Covid et tout, je suis assez... Mais en dehors de ça... Ouais, voilà, c'est ça. Mais en dehors de ça, je fais ce que j'aime. Enfin, voilà, moi, je suis partie, donc je vois plus trop... Enfin, je vois moins ma famille, en fait, maintenant... Malheureusement, vu que du coup je suis partie à Londres et qu'en plus il y avait le Covid, donc je pouvais pas retourner comme on pourrait le faire. C'est proche quand même. Et Colia est encore plus loin, vu qu'elle est à Lyon, donc c'est on se voit pas autant que j'aimerais, mais je pourrais dire quand même que je suis totalement épanouie. Pardon.
Tout va bien.
C'est ça. Ouais. C'est ça.
Et quel est ton rapport à tes mères maintenant? Comment ça se passe entre vous? Parce que du coup, bon, la séparation est toujours actée. Je suppose qu'elles ont chacune leur famille de leur côté. Quel est toi ton rapport avec elles? Comment tu arrives à... Enfin, comment tu te partages, entre guillemets?
En fait, moi, j'ai jamais eu vraiment un rapport avec mes mères comme elles étaient... Enfin, comme si elles étaient mes mères. C'est-à-dire que j'ai toujours eu plus ou moins l'impression que c'était plus des amis, en fait, que mes mères. Enfin, c'est un peu... Oui. Ça peut être bizarre d'entendre ça, mais... Comme elles
mais tu les as jamais vues ensemble, donc c'est logique.
Oui, c'est vrai. Ça peut faire partie de ça aussi. Mais aussi parce qu'elles m'ont, elles m'ont laissé très, très libre dans ma vie. Et ce qui est génial, en fait, parce que du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu m'épanouir autant. Parce qu'elles me faisaient confiance, en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. C'est que, ouais, comme elles me faisaient confiance, moi, je leur faisais confiance aussi avec des choses que je leur dis. Enfin, elles savent tout de moi. Je leur dis tout. Et je pense que c'est aussi ça. Enfin, c'est ce que je vois la différence par rapport avec d'autres amis. Enfin, des amis avec leur rapport aux parents. C'est vraiment pas du tout la même chose. Je sais pas si c'est un rapport avec le fait qu'elle soit que ça soit deux mères, je pense pas, probablement pas, du coup pour moi ça a jamais vraiment été mes parents, en fait. Enfin, au début ça c'est sûr, quand j'étais enfant, mais après à partir du moment où j'étais adolescente, etc., c'était des très bonnes amies, voilà.
Non, mais c'est chouette d'avoir cette relation là parce que du coup elles avaient plus un rôle de guide. Ouais, plus un rôle de guide, j'ai un peu l'impression, plutôt qu'un rôle de parent. Alors, c'est vrai que le rôle de parent, il a vocation à être un guide, hein, soyons clairs. Mais on a tous tendance, enfin, en tout cas, je pense qu'on a quand même un peu tous tendance à vouloir garder nos enfants tout près de nous. Ouais. et puis parfois, à être un petit peu trop, à pas assez faire confiance, à pas assez lâcher prise. De ce que tu me dis, enfin, t'as une vraie relation apaisée avec tes deux mamans, donc chacune de leur côté, du coup, comme deux amis, quoi. C'est vraiment chouette.
Oui, c'est ça, guide, c'est pas mal comme mot pour résumer ça, ouais.
D'accord. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu referais quelque chose différemment ou tu... Alors évidemment, on n'a pas de conseils à donner à des parents, encore moins quand ce sont nos parents, mais est-ce que tu aurais aimé que quelque chose soit fait différemment ou que t'as... Enfin, ouais, qu'il y ait une période peut-être de ta vie qui soit vécue d'une façon différente?
Donc par rapport à moi, c'est ça? Par rapport oui. Ou par rapport à la famille, oui.
Mais à toi, mais forcément, tu es encore jeune, donc je pense que la famille va forcément s'intégrer à ta réponse.
Ouais, ouais. Je pense que... Non, au niveau de l'éducation et de comment elles m'ont fait devenir adulte, non, enfin, je pense qu'il n'y a aucun... Enfin, pas grand-chose que je changerais, je pense pas. Après... Mais ça n'a pas de rapport vraiment avec le fait qu'elle soit de femme. J'aurais aimé en fait avoir plus peut-être de contact avec d'autres familles arc-en-ciel, d'autres familles LGBT. Parce qu'au début, on allait à l'APGL, donc quand on était jeune, on allait au week-end de l'APGL, mais on a très vite arrêté. Et je pense que c'est aussi parce que nous, on était un peu. On n'était pas super intéressés avec Colia, mais.
Pas d'intérêt.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, finalement, je trouve ça très dommage parce que. En vrai, c'est enfin, c'est cool de rencontrer des gens qui ont un peu le même vécu. Et surtout que c'est généralement des gens aussi qui sont assez politisés, ce qui est super intéressant, quoi. Donc, ouais, en vrai, ça. Mais c'est totalement de ma faute aussi, parce que on n'a pas dit « Ah, on adore aller...
» Ouais, mais quand t'es enfant, c'est difficile. Hein.
C'est vrai. Mais après, on aurait probablement dit « Ah, pourquoi vous nous forcez à aller là ?» Tu vois, c'est un peu compliqué.
Ouais. Mais je comprends. Mais c'est important aussi pour nous parents, d'entendre que, bah, avec le recul, bah, vous auriez aimé avoir, en fait, des familles qui rentraient dans votre modèle à vous.
Et ouais, donc, c'est ça.
Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant et en même temps hyper rassurant, parce que même si ça n'a pas été le cas, tu vois, tu t'es quand même construite et aujourd'hui tu vas bien. Et oui, voilà, tu nous donnes des tips en fait. C'est pour ça que je t'ai posé cette question-là, mais ouais, tu nous donnes des tips pour l'avenir.
Super.
Est-ce que toi aujourd'hui tu aurais des... Je ne peux pas dire des conseils, mais est-ce que tu aurais des choses... Enfin, est-ce que tu aurais envie de faire passer un message pour les parents à venir, ou pour les parents actuels de familles extraordinaires, comme moi je les appelle.
Ouais, c'est mignon comme toi. non, pas vraiment, à part juste ouais, d'assumer en fait ce que vous faites, quoi, dans le sens où si vous décidez d'avoir des enfants avec une femme ou un homme, ou enfin une personne du même sexe ou quelle qu'elle soit, faites-le jusqu'au bout, quoi.
Oui. C'est vrai que c'est, en tout cas moi c'est la sensation que j'ai, c'est la base pour que nos enfants se sentent bien et assument nos familles, c'est à nous de les assumer en fait en amont.
Non mais totalement, oui.
Mais c'est, ouais, ok. Mais écoute, franchement je pense que tu as pas mal résumé, alors je pense qu'on a quand même cette vision des choses pour la plupart, hein, soyons clairs, mais c'est super de l'entendre de la bouche d'un enfant qui est passé par là. C'est assez plaisant aussi de se rendre compte de ton vécu, qui est donc différent de celui de ta sœur, de votre famille. Évidemment, c'est lié à la différence d'âge, c'est lié au fait que toi, tu arrives dans le processus d'adoption plus jeune que Colia, et que donc du coup, forcément, la situation s'apaise plus rapidement, entre guillemets, pour toi que pour Colia. C'est vraiment hyper intéressant d'avoir le point de vue global d'une fratrie. Je te remercie vraiment beaucoup, Anouk, pour ce témoignage. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'entendre et tu m'as énormément rassurée sur l'avenir. J'espère que ce sera le cas aussi pour nos auditeurs.
Merci beaucoup, c'était très cool.
Super. Je reviendrai vers toi si jamais on a un peu plus de questions et si t'es ok, parce que évidemment moi j'ai posé les questions que j'avais en tête pendant cet enregistrement, mais je suis sûre qu'il pourra m'en venir à moi et à nos auditeurs. Donc si t'es ok, je reviendrai vers toi si des questions se soulèvent.
Ah mais oui, totalement, je suis toujours disponible.
Super, merci beaucoup Anouk, je te dis à très bientôt.
Ok, merci.
Je vous reprends cette fin d'épisode pour vous redonner les références du livre dans lequel Anouk a témoigné. Il s'agit du livre Gosse d'Homo, récit d'enfants de couple lesbien, de Colia Ifler-Witkowski, aux éditions Max Milo. Vous y retrouverez 16 témoignages d'enfants issus de familles homoparentales, tous plus enrichissants les uns que les autres. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut rassurer, de votre côté ou du côté de vos proches, n'hésitez surtout pas à le partager, ça aidera même le podcast. Et si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le faire en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en me laissant un petit commentaire, ça fait toujours chaud au cœur. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, pour pouvoir poursuivre la discussion ou en commencer de nouvelles. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien. Ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand. Nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone.
Josephine. Even when my soul's an amputee and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Less alone.